Vous écoutez RTL.
Il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Vincent Parisot, Christelle Rebière.
Bonjour à toutes et à tous. C'est parti, c'est RTL midi, le grand carrefour de l'info de la mi-journée. Très heureux de vous retrouver. Bonjour Christelle.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Alors, on attend évidemment vos appels dès maintenant au 3210 parce que les sujets qui vous intéressent nous intéressent forcément. On attend vos messages sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. C'est vous maintenant qui prenez les commandes de l'édition de cette émission. Et Christelle, l'actualité, c'est tout d'abord la réforme à un train d'enfer pour la SNCF.
Le gouvernement veut procéder par ordonnance. La loi d'habilitation a été présentée ce matin au Conseil des ministres pour un calendrier TGV. Le kit espionnage chez IKEA, le géant de l'ameublement, pourrait se retrouver en correctionnel pour avoir fait vérifier les casiers judiciaires de ses salariés. Dans RTL Midi aussi, nous évoquerons les 100 ans de la Ligue contre le cancer. Les traitements ont beaucoup progressé. Encore faut-il y avoir accès. L'inégalité territoriale est criante et nous attendons vos témoignages au 3210. L'album posthume de Johnny comptera 9 titres avant le début de la bataille judiciaire demain chez Léa Hallyday. Nos révélations RTL sur son contenu. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Une seule couleur, le bleu.
Oui, c'est vrai que ça y est, on a bien notre journée de répit avec effectivement un temps sec et ensoleillé quasiment partout. Il reste quelques nuages bas encore du côté de la Lorraine ou encore près des Vosges, mais ça devrait se dissiper. Donc c'est bien le soleil qui s'imposera cet après-midi quasiment partout parce que déjà dans l'ouest arrive la perturbation suivante avec un voile nuageux un peu plus épais près de l'Atlantique. Et d'ailleurs cet après-midi, ça finira par donner quelques pluies sur la Bretagne ou encore le Pays Basque. Avec ce soleil, les températures seront largement printanières cet après-midi. 13 à 16 degrés au moins dans la moitié nord et 16 à 19 degrés même dans la moitié sud.
Louis, on vous attend pour les détails, juste avant 13h. Ouais. À tout à l'heure. Ensuite, ce sera un jour sur la Terre, une histoire. Donc on ira à Blagnac où l'église ne veut pas entendre chanter Brassens. Ensuite, ce sera Laurent Gérard pour rire à 13h50. Alors la question du jour sur RTL.fr, justement, on vient d'en parler. Est-ce que vous acceptez qu'un infirmier spécialement formé puisse prescrire des médicaments ou des examens? Et pour l'instant, eh bien, vous nous dites non. À une petite majorité, 40% de oui, 56% de non. Eh bien, maintenant, on vous attend, que vous soyez médecin, infirmier, patient. Vous n'hésitez pas, vous faites le 3210, comme l'a fait Céline de Strasbourg.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Valoriser la profession infirmière, c'est une bonne chose, mais peut-être pas de cette façon. Pour les examens radiologiques, je pense que 2 ans ne sont peut-être pas suffisants pour avoir les compétences nécessaires afin de pouvoir faire une ordonnance la plus complète, la plus précise. Pour ma part, je pense qu'il faut faire très très attention.
Appelez-nous au 3210. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
De l'espionnage au goût suédois, IKEA pourrait être renvoyé en correctionnel, plus précisément une quinzaine de personnes, dont 2 anciens patrons de la chaîne de magasins en France et 5 policiers. Ils s'étaient arrangés, d'après le quotidien Le Monde, pour vérifier le casier judiciaire des personnes recrutées ou en passe de l'être, Christophe Ponzio.
Oui, IKEA France a bien mis en place un système de renseignement à grande échelle, quasi industriel. C'est ce que détaille le réquisitoire définitif du parquet de Versailles rendu début janvier. Selon le ministère public, le patron de l'enseigne de meubles entre 1996 et 2009, Jean-Louis Bayot, est accusé d'avoir exigé des contrôles systématiques sur les recrutements à chaque ouverture de magasin pour s'assurer que ses futurs employés n'avaient pas d'antécédents judiciaires. Quant à son successeur jusqu'en 2015, Stéphane Van Ovenbeck, il lui est reproché d'avoir fermé les yeux et laissé faire ses pratiques. Face à la magistrate, les 2 ex-dirigeants d'IKEA ont toujours nié les faits d'espionnage. En tout, 15 personnes sont dans le viseur de la justice, en plus d'IKEA. Emmanuel Daoud est l'avocat de l'enseigne.
IKEA n'a jamais cautionné de telles pratiques et IKEA a mis en place tout un dispositif pour éviter que d'éventuels errements puissent se reproduire à nouveau. Rédaction d'un code de déontologie, formation de l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices sur ces problématiques de protection des données personnelles. Bref, aujourd'hui, ça ne se produit plus.
Après cette défense et ces réquisitions du parquet sur ces pratiques présumées d'espionnage chez IKEA, il appartient désormais au juge de décider ou non de renvoyer l'affaire devant un tribunal.
Christophe Ponzio, quant à l'espionnage d'État, celui-là, après l'empoisonnement d'un ex-agent russe en Angleterre, le Kremlin dénonce des accusations sans preuve. Theresa May, la première ministre britannique, consulte en ce moment son Conseil de sécurité nationale avant de décider d'éventuelles sanctions.
La justice bouge enfin sur cette affaire de pédophilie à Genlis en Côte d'Or, dont on vous a largement parlé Sur RTL, vous vous souvenez, c'est l'histoire de cet instituteur soupçonné à tort du viol d'une de ses élèves de 4 ans. Il a finalement été mis hors de cause. L'enquête se dirige vers un proche de l'enfant. Et Frédéric Perruche, le coup de gueule de l'avocat de l'association Innocence en danger, Maître Grimaud, sur RTL la semaine dernière, a semble-t-il porté, puisque d'après vos infos, eh bien, le juge a fini par accepter de protéger cet enfant. Hein.
Oui, après 6 demandes des avocats de l'instituteur et de l'association Innocence en danger, écartées par le juge, il a finalement décidé d'accepter la requête, c'est-à-dire la nomination dans cette affaire sensible d'un administrateur ad hoc, autrement dit d'une personne de confiance agréée par la justice, un travailleur social, un spécialiste de l'enfance, pour défendre les intérêts ou l'intégrité de la fillette, bref, la protéger en cas de suspicion, par exemple, d'abus sexuels ou de violences intrafamiliales. Ce défenseur des droits de l'enfant pourra également ordonner la saisie d'un avocat pour assister l'enfant, et c'est essentiel, un avocat différent bien sûr de celui de ses parents. Jusqu'à présent, elle ne s'est exprimée devant le juge qu'en présence de ses parents et d'un avocat commun. Dans ce dossier, rappelons que l'hypothèse d'un viol par un proche de l'enfant, longtemps ignorée par le magistrat instructeur, est désormais envisagée. D'autres actes d'enquête ont également été lancés, selon nos informations. D'autres devraient suivre dans les semaines qui viennent.
Merci Frédéric Perruche.
La réforme à grande vitesse de la SNCF, Philippe Martinez de la CGT a beau dénoncer le choix de l'affrontement, le gouvernement ne veut pas traîner, il va utiliser des ordonnances. La loi d'habilitation a été examinée ce matin en Conseil des ministres. Marie-Bénédicte Allaire, vous êtes à l'Élysée pour RTL, où le gouvernement utilise finalement la même méthode que pour la réforme du Code du travail.
Eh bien exactement, avec un calendrier très contraint. Après la première étape ce matin en Conseil des ministres, les premières discussions se dérouleront à l'Assemblée à partir du 9 avril en commission, puis dans l'hémicycle pour un vote le 19 avril prochain afin que le texte soit définitivement adopté avant l'été. L'idée, c'est de graver les principes dans le marbre d'abord, c'est l'objectif des ordonnances, tout en consultant en même temps sur la mise en musique. Et ça, ce sont les quelques 50 réunions prévues sous la houlette d'Elisabeth Borne d'ici mi-avril. La ministre s'engage à une concertation approfondie et au fur et à mesure de ces discussions avec les syndicats et du débat parlementaire, les ordonnances doivent être remplacées par des amendements législatifs. Les dates de l'ouverture à la concurrence des TER, par exemple, devraient être précisées au terme de ce processus.
Marie-Bénédicte Allaire en direct de l'Élysée. Les cheminots mobiliseront comme prévu aux côtés des fonctionnaires le 22 mars et la CGT-RATP prévoit de se joindre au mouvement. Un drame ce matin à Saint-Seurin sur l'île en Gironde. Une adolescente de 16 ans est morte après avoir été heurtée par un train à un passage à niveau pour se rendre à la gare toute proche. D'après les témoins, elle aurait traversé alors que les barrières étaient fermées. Mayotte vers une sortie de crise. Le plan de lutte contre l'insécurité proposé par le gouvernement a été accepté par les élus. La population doit maintenant décider de la levée ou pas des barrages.
Allez, courte pause et dans un instant, on évoque un nouveau métier, IPA, comme infirmier de pratique avancée. Alors, super infirmier ou sous-médecin, dans un instant, on va être très concret. À tout de suite.
RTL Midi, Christelle Rebière, Vincent Parisot.
Comment pallier le manque de médecins généralistes? Le gouvernement tente de trouver des solutions dans l'urgence et un décret à paraître d'ici la fin du mois devrait créer des qualifications de super infirmiers, des IPA, infirmiers de pratique avancée, qui pourraient prescrire certains examens et certains médicaments. Alors super infirmier ou sous-médecin, on va essayer d'y voir clair avec vous. Jacques Serret, bonjour.
Bonjour.
Quel serait exactement leur travail?
Eh bien le même qu'aujourd'hui, mais avec davantage d'autonomie. En plus de ce qu'ils font habituellement, ces IPA pourront mener des entretiens avec leurs patients. Entretiens pour ne pas dire consultation, pourtant c'est bien de cela dont il s'agit. Par exemple, dans les déserts médicaux, un patient pourra demander à son médecin traitant s'il peut se retourner vers un de ses infirmiers. Et si le praticien dit oui, le patient pourra aller consulter son IPA. Cet infirmier de pratique avancée pourra alors prescrire des examens biologiques et radiologiques à la place du docteur et même prescrire certains médicaments si la pathologie du patient n'est pas nouvelle.
Et qu'en disent les médecins ?
Ah, pas du bien, généralement. Beaucoup y voient une nouvelle forme de concurrence. Écoutez Philippe Vermeche, il est le président des médecins libéraux.
On est presque dans le diagnostic et on est quasiment dans le rôle du médecin. Ce personnel qui sortira vraisemblablement de l'hôpital pourra s'installer en ville dans un futur relativement proche et se mettre carrément en concurrence avec les médecins libéraux.
D'autres affirment même que c'est la sécurité des patients qui est remise en cause. Ces infirmiers devront au total faire 5 ans d'études pour avoir ce titre, quand il en faut au minimum 8 pour être généraliste. La pilule a du mal à passer chez certains.
Merci Jacques Serret. Alors ce serait évidemment une petite révolution à la fois pour les médecins médecins, pour les infirmiers et pour les patients. Donc, on attend vos arguments, vos critiques au 32-10. Est-ce que c'est une bonne, c'est une mauvaise idée? Comment on pourrait la mettre en pratique? On en parle tous ensemble. 3-2-1-0, évidemment.
Le bilan inquiétant de la rougeole. 913 cas ont été recensés depuis le mois de novembre. 200 personnes hospitalisées. Aucun département n'a une couverture vaccinale suffisante de 95%. Les autorités sanitaires craignent une extension de l'épidémie dans les mois à venir.
Et puis la Ligue contre le cancer a 100 ans, occasion évidemment de soutenir l'association après un siècle de combat contre ce qui est la première cause de mortalité en France. Mais aujourd'hui, globalement, on guérit 60% des cancers. Mais voilà, avec de fortes disparités, selon les pathologies bien sûr, mais aussi selon les régions. Et on a décidé de s'y arrêter avec l'invité d'RTL Midi, le délégué à la communication de la Ligue. Bonjour Christophe Leroux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Parmi les devises de la Ligue, il y a « Chaque personne atteinte d'un cancer est une personne à soigner équitablement ». Pourtant, il existe des inégalités territoriales d'accès aux soins après un cancer. Quelles sont d'ailleurs, pour vous, les inégalités les plus criantes ?
Alors, vous savez, les inégalités commencent même avant d'avoir un cancer. En termes de prévention, un habitant du nord de la France a deux fois plus de chances d'avoir un cancer qu'un habitant de la région parisienne ou du sud de la France. Pour tout un tas de raisons, des raisons sociales, culturelles, d'exposition aux facteurs de risque et des raisons économiques également. Donc, l'expression des inégalités commence avant même le cancer. Mmh. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion du centenaire, par exemple, on décide de se mobiliser pour la prévention des cancers, puisque 40% des cancers sont évitables. Et comme d'habitude, il s'agit d'un marqueur social, les personnes les plus vulnérables professionnellement, économiquement, culturellement, sont toujours évidemment celles qui cumulent le plus de handicap. Mmh. Ensuite, quand on a malheureusement un cancer, l'expression des inégalités se renforce puisque 60% des personnes ayant un cancer ont une perte de revenus financière significative. Quand on parle de 100% de prise en charge, on parle en réalité uniquement du traitement anti-cancer. On ne parle pas
de tout ce qui a
les effets délétères de l'arrivée de la maladie.
Bien sûr.
Une des priorités, quand même, Christophe Leroux, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on en parle ensemble, c'est cette lutte contre les déserts médicaux. On sait qu'ils retardent la prise en charge des personnes malades.
Alors vous voyez, le sujet que vous avez passé précédemment sur les infirmières, c'est une des solutions possibles.
Oui.
Donc évidemment, ça fait partie de l'arsenal des idées qu'on doit déployer. Le désert médical, ce n'est pas forcément un désert comme on se l'imagine, avec un territoire sans vie. Les déserts médicaux, ça s'exprime dans les zones urbaines parfois, ça s'exprime bien sûr dans les quartiers populaires, en outre-mer, ça s'exprime en ruralité. C'est quoi un désert médical quand on a un cancer? C'est quand on va faire sa chimiothérapie en hôpital de jour dans un centre d'excellence qui est à 200 kilomètres de chez soi, et que chez soi, sur son territoire, il n'y a aucun relais efficace, eh bien la personne met en danger non seulement l'efficacité du traitement, mais met en danger tout le parcours de soins.
Vous souhaitez d'ailleurs, je crois, des maisons relais, justement, pour la chimiothérapie dans les secteurs où il y en a besoin, où on serait obligé d'aller faire des dizaines et des dizaines de kilomètres pour suivre sa chimio.
Alors imaginez une personne qui fait une chimiothérapie en hôpital de jour. Mmh. Elle sort de sa séance de chimiothérapie ou de radiothérapie, elle est fracassée, elle est démolie. Comment peut-elle faire 200 km de taxi pour rentrer chez elle ou 100 km de brousse quand c'est en Outre-mer par exemple? Donc il faut des structures de répit, des structures des maisons d'accueil de répit pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Et nous on fait, non seulement on le réclame, mais avant de le réclamer, on fait l'expérience. On en a déployé une en Martinique, on en déploie en Corrèze, ça marche très bien, c'est-à-dire que les personnes peuvent rester 2 heures, 3 heures, parfois une nuit pour se remettre de l'efficacité du traitement, mais cette efficacité, elle a des effets secondaires qui font que c'est insupportable parfois, le transport ou le retour à domicile immédiat. Donc c'est les effets, ce qu'on appelle le retour, le maintien à domicile, ce qu'on appelle l'ambulatoire, c'est bien, mais ça a des effets délétères qu'il faut évidemment compenser.
Oui, et puis il y a aussi le problème du coût des nouveaux médicaments contre le cancer, qui ne cesse d'augmenter, voire d'exploser. Les anticancéreux ont déjà vu leur prix doubler en 10 ans. Ça aussi, c'est une autre forme d'inégalité d'accès aux soins.
Alors là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une forme de financiarisation de l'accès aux médicaments innovants en cancérologie qui pose des problèmes. Il y a des traitements qui arrivent en France qui vont coûter 500 000 euros par patient. Vous imaginez bien que ça n'est pas supportable par le système de santé. Or, ces prix-là sont fixés dans une certaine opacité. Nous réclamons, bien entendu, que les associations de patients puissent être présentes dans la fixation des prix. Mmh. Et puis, comment se fait-il qu'un traitement qui coûte 300 $ dans un pays qui rapporte de l'argent à l'industrie pharmaceutique va coûter 25 000 € en France. Ça n'est pas, c'est pas acceptable.
Un peu de transparence.
Merci beaucoup, merci beaucoup Christophe Leroux, délégué à la communication de la Ligue contre le cancer, qui fête donc ses 100 ans. Et j'imagine qu'effectivement, c'est aussi l'occasion de faire un don, et c'est l'occasion de faire le 32-10 également pour parler de ce déséquilibre, notamment territorial, vis-à-vis du dépistage et de la lutte contre le cancer. On vous attend. Témoignez. 32-10.
Dans un instant, l'ouverture des magasins le dimanche et cette question, est-ce que ça crée des emplois ?
RTL Midi, Christelle Rebière, Vincent Parisot.
À qui profite l'ouverture des magasins le dimanche ? C'est l'une des questions que l'on se pose aujourd'hui, alors qu'un boulanger de Lusigny-sur-Barse, dans l'Aude, a été condamné à payer 3 000 € de contravention pour avoir ouvert sa boulangerie 7 jours sur 7 l'été dernier. Alors on a eu envie, dans RTL Midi, de faire le point. Est-ce que ça crée vraiment des emplois, cette ouverture de le dimanche ? Pas si sûr, si l'on en croit Éric Scherrer du syndicat du commerce Cessi-UNSA.
Pour moi, ça n'a pas permis de créer d'emplois. Et en tout cas, si ça a créé autant d'emplois, je demande qu'on me les montre et qu'on montre les chiffres. Non, non, il y a eu éventuellement un transfert d'emplois de la semaine au week-end avec des emplois vendredi, samedi, dimanche. Et la création éventuelle d'emplois le dimanche est venue simplement compenser la perte d'emplois que ces magasins avaient la semaine. Création d'emplois nette. Il n'y en a pas.
Voilà, Éric Scherrer qui est, lui, contre l'ouverture des magasins le dimanche. Anaïs Bouissou, c'est vrai ou pas ?
Ce qui est vrai, c'est que la dernière étude complète sur le sujet évoque des commerçants, des patrons contents d'ouvrir le dimanche, des chiffres d'affaires en augmentation. Mais l'étude parle aussi, et c'est tout le problème, je cite, « d'effets encore limités sur l'emploi ». Comprenez, peu de nouvelles embauches. C'est une étude qui date d'il y a un an et qui a été réalisée pour le ministère de l'Économie et des Finances. Les commerces eux-mêmes n'annoncent pas de raz-de-marée d'emploi, ni dans l'alimentaire, ni dans l'habillement, par exemple. Le seul chiffre que donne l'Alliance du commerce, il est pour les grands magasins parisiens. Le Printemps, le BHV, les Galeries Lafayette et le Bon Marché auraient embauché plus de 1500 personnes en ouvrant le dimanche. Reste un chiffrage du gouvernement, un chiffre du porte-parole même du gouvernement, Benjamin Griveaux. Lui, il évoque 10 000 créations d'emplois partout en France. Mais ce chiffre ne vient d'aucune étude scientifique, il n'est pas validé par Bercy. Et c'est une sorte d'addition, d'agrégat de données un peu floues.
Merci Anaïs. Alors justement, avec le recul, que pensez-vous de l'ouverture des magasins le dimanche, hein, si vous êtes concerné évidemment. Est-ce que vous pensez que ça va créer de l'emploi ? Est-ce que ça a changé vos habitudes, vous, de consommateurs ? N'hésitez pas, on vous attend au 32-10. Le gouvernement s'attaque Google et Apple. Bruno Le Maire a annoncé ce matin sur RTL qu'il allait les assigner en justice pour des pratiques commerciales abusives. Vous entendrez le ministre tout à l'heure à 13h.
Angela Merkel, chancelière pour la quatrième fois, les députés allemands l'ont réélue ce matin après 6 mois d'imbroglio et elle vient de prêter serment.
Madame la députée, docteur Angela Merkel, acceptez-vous le vote ?
Oui, monsieur le président, j'accepte le vote.
Et Angela Merkel sera reçue dès vendredi par Emmanuel Macron à l'Élysée pour une première séance de travail. Les premières retrouvailles seront judiciaires pour les Hallyday. Ce sera demain devant le tribunal de Nanterre où Laura et David ont demandé à prendre connaissance de l'album posthume de leur père. Ce qu'on sait déjà de cet album, Anthony Martin, c'est qu'il sera rock et que malgré la maladie, Johnny avait gardé la puissance de sa voix.
Oui, alors ce qu'on sait déjà depuis longtemps, c'est que Johnny a pu enregistrer 9 chansons en Californie puis à Paris et c'est une des rares fois où Johnny a commandé des textes. Le chanteur et parolier Miossec nous a confié que Johnny voulait une déclaration d'amour à la ville de Los Angeles. Eh bien, il lui a écrit une chanson qui s'appellera « Back in LA ». Autre commande, quand Johnny a su qu'il était malade, il a voulu un texte sombre sur le thème « J'ai rendez-vous avec le diable ». Ce sera une des chansons les plus marquantes du disque. Jusqu'à la fin, Johnny n'a cessé de penser à cet album. Il voulait même aménager une pièce de sa maison de Marne-la-Coquette en studio pour pouvoir enregistrer d'autres titres. Il n'a malheureusement pas eu le temps de poser sa voix sur 2 chansons qui lui tenaient à cœur. Il faut savoir que depuis la disparition de Johnny, le travail autour des chansons s'est fait de façon collégiale. Les fidèles auteurs, compositeurs, musiciens, directeurs artistiques qui collaboraient avec lui depuis 15 années se sont réunis à plusieurs reprises pour avancer, nous ont-ils dit, avec prudence et patience, les arrangements de l'album étant confiés à Yodelis. Enfin, tous ceux qu'on a pu croiser et qui ont écouté les chansons sont unanimes. On n'a jamais entendu Johnny chanter comme ça, nous ont-ils confié.
Les infos RTL d'Anthony Martin, merci. On le comparait à Einstein et Newton et l'hommage est mondial. L'astrophysicien britannique Stephen Hawking est mort à l'âge de 76 ans. Son génie scientifique avait fait de lui un spécialiste des trous noirs et un grand vulgarisateur. Il aurait dû mourir à l'âge de 21 ans de la maladie de Charcot et il a passé sa vie à défier son handicap. Il aimait à dire « cet univers ne serait pas grand-chose s'il n'abritait pas les gens qu'on aime. »
Allez, courte pause et dans un instant avec Louis Baudin. Et en plus, il fait beau.
RTL Midi.
La météo, un petit répit, Louis Baudin.
Ouais, ça fait du bien. Hein. Là, je regarde mes images satellites avec plaisir parce qu'effectivement, le soleil s'impose quasiment partout. Je vois encore quelques nuages dans le nord-est, mais ça devrait se dissiper. Là aussi, c'est bien le soleil qui s'imposera. Du soleil dans le sud, du soleil également dans le centre. Alors, il n'y a que près de l'Atlantique, hein, on a déjà les traces de la perturbation suivante avec un voile nuageux et même quelques pluies déjà sur la Bretagne, sur le Pays Basque. Ça va rester bloqué dans l'ouest, hein, donc ça n'ira pas plus loin cet après-midi, même si le voile nuageux devient un peu plus épais entre les Pyrénées et la Normandie. C'est toujours la belle luminosité qui l'emportera, puis quelques nuages peut-être également dans le Languedoc. Pour l'instant, il n'y en a pas, donc peut-être qu'on va se tromper de ce côté-là, à surveiller. Côté température, bah avec du soleil, ça va grimper. Des températures de printemps, 13 à 16 degrés au moins dans la moitié nord et 16 à 19 degrés dans le sud.
Bon, et demain, eh bien, c'est déjà fini.
Bah oui, vous avez dit répit, hein, Christelle. Oui. Donc voilà, bah oui, c'est donc effectivement dès demain. Et d'ailleurs,
le répit,
dès
la... c'est court par définition.
Donc dès la nuit prochaine, les pluies vont revenir sur la moitié ouest. Demain matin, cette perturbation sera déjà dans la moitié est avec beaucoup d'activité. Des nuages, de la pluie, de la neige en montagne, un peu de vent également, des orages pourront accompagner cette perturbation, notamment près de la Méditerranée, également concernée par la dégradation. Puis après son passage dans l'ouest, on retrouvera certes quelques éclaircies, mais avec encore des averses, parfois de l'orage l'après-midi, et du coup des températures qui vont baisser un peu. Bon, ça restera de saison par rapport à ce qui nous attend plus tard. On aura quelques valeurs positives le matin et l'après-midi, entre 11 et 14 degrés dans la moitié nord et 14 à 17 encore dans le sud.
Voilà, on savoure ce mercredi. Merci,
Louis. Exactement.